chiffre qui entretient la télé.
Radio Galère.
Radio Galère.
Io sono il fortunato ragazzone recente acquisto dell'umanità. Ho una superba faccia da frescone e superante imbecillità. Sportivo a tempo perso, un po' monello, con la pipetta in bocca me ne vo'. Atteggio a prepotente, a picchiatello, poi saputello eppure nulla so. Io sono il piccolo Marcello, baffutello, sbarbatello, sfrontatello e spacciatello.
Marcello,
sono più leggero di un fuscello, più prezioso di un gioiello, più innocente di un porcello.
Marcello,
Marcello di qua, Marcello di là, Marcello di su, Marcello di giù. È strano, lo so, ma un fascino, no, ce l'ho, ce l'ho, ma chi che bingrindina che ce l'ho.
Marcello,
son fatuo come un venticello, lieto come uno stornello, fesso come un somarello.
Marcello,
col microscopico cervello, più piccino di un pisello, penso solo che sono bello, sono il bello di mamma.
Ormai con la bonsoir, benvenuto sul Nino domani a Palermo, 4 FM. Ecuteo sì le podcast su Nino domani a Palermo sulle site radiogalere.org. Allora, aujourd'hui on reprend avec la troisième émission sur la critique littéraire et on conclut ce cycle de trois émissions sur la critique littéraire. Aujourd'hui on a parlé bon, du début de la critique littéraire, on a parlé de la critique marxiste, on a parlé de la critique psychanalytique, on a consacré une émission un peu abstraite sur le structuralisme et aujourd'hui on va parler des derniers courants critiques qui sont les plus proche de notre siècle, qui sont la critique phénoménologique et la critique qui met les points sur les lettres. Alors, qu'est-ce que c'est la critique thématique ou phénoménologique? Dans les années 50-60, la littérature est vue du point de vue de la phénoménologie. La phénoménologie est la manière d'aborder la conscience du sujet. Donc, le sujet, c'est l'auteur, donc c'est la production des images propres à l'auteur. Les images qui produisent l'imaginaire, sa vision du monde. Donc, naît la critique thématique, comme je vous ai dit, qu'on l'a grâce à l'école de Genève. On ne parle pas de psychanalyse, mais on parle des thèmes, des thématiques. Donc, on a l'analyse vraiment des sensations, des liens, des formes, à travers les couleurs, la perception, tout qui est sensible. Par exemple, on a un critique qui s'appelle Georges Poulet, qui fait une distinction entre temps humain et temps objectif. Le temps objectif, c'est le temps du calendrier, le temps constitué par les jours, les mois, les heures, les minutes, les secondes, etc. Le temps humain, c'est, on va dire, le temps de la narration, où il y a des ralentissements, où il y a des ellipses, des accélérations. Donc, déjà, à niveau phénoménologique, à niveau des sensations, des perceptions avec les ralentissements et les accélérations qu'on retrouve dans une œuvre littéraire, mais aussi on peut les retrouver bien sûr dans les films. Il y a cette différenciation à niveau sensoriel. Jean-Pierre Richard est un autre critique qui étudiera la sensation et la matière, et il écrit un livre qui s'appelle La littérature des sensations. Et par exemple, il fait toute une analyse de la façon dans laquelle on mange dans les livres de Flaubert et de Stendhal. Par exemple, il dira, Richard, il est aspiré par un philosophe qui s'appelle Bergerard. E lui il fait un fenomenologie des éléments, l'eau, le feu, la terre, l'eau dans le rêve, e il fait tutta una distinzione aussi della comprensione come l'espace è conçu par l'auteur, donc le dedans, le dehors, c'est quelque chose qui est lié à la psychanalyse, ma qui dépasse en même temps dans la psychanalyse. On part pas d'inconscient, mais on part de perception, je retourne à dire. Alors, le structuralisme, il prenait des échantillons d'un auteur pour faire une analyse, il prenait un texte, il prenait la critique thématique, il est obligé à prendre un peu, comme on a vu dans la psychanalyse, toute l'œuvre de l'auteur. Donc, la critique thématique est la subjectivité et la production des images. Ça vient du romantisme. La subjettività, il concetto di subjettività che produce le immagini. Par exemple, Poulet, dans Orientation fondamentale de l'esprit chez Flaubert, c'est un article, il dirà che come le romantiques, Flaubert a cet esprit pour la conscience d'une expérience interne exceptionnelle. Par exemple, il fait beau. È Flaubert qui perçoit lui-même qu'il fait beau, il rend cette beauté du ciel dans l'écriture, donc la trasposizione della percezione en image, en thème. Donc il dira: c'est pas Flaubert lui-même le sujet, mais la rappresentazione du moi percevant par rapport à l'objet perçu. C'est ça le noyau fondamental de la critique thématique. Aujourd'hui, après cette conception, toujours ce concept un peu abstrait, j'ai chargé Yamine, notre technicien, de choisir la playlist parce que voilà, j'ai fait confiance aux jeunes, j'ai fait confiance aux nouveaux tendances musicaux et on écoute un premier morceau, Soai, de qui, Yamine?
De Rebellion.
De Rebellion. De quoi il parle un peu, plus ou moins, ces chansons?
Alors, ça parle de fumer et de voler dans les nuages.
Voilà, donc, à propos de ce discours abstrait.
Exactement.
We will get so high with the so high Rebellion of I am being. Let's listen.
Thank you. spliff. Roll me up a spliff, then I catch a lift. Put me on your shoulders, on the cannabis. I said, control it, now we getting high. Planet Earth in the place, catch a vibe. I am lying, watch me levitate. Now I did it good, representing for the brave. Marijuana, I love it to my death. Plus I'm from Amsterdam, so there's S on my breath. Never fuck with them, we only blow dank. I supply vaporizer, it's time to elevate, yeah. Who's got the herb when I'm dry?
Merci Amin pour nous avoir envoyé cette bonne morceau de reggae music, mais des sonorités, comment dire, très élégantes, très raffinées. Et on va continuer notre voyage psychosensible, on va dire psychotrophe, avec ces substances, ou plutôt avec la QQQ culture. On va continuer ce voyage avec ce qui back time appelait le dialogisme. Selon cette critique, tous les œuvres dialoguaient du point de vue l'un à l'autre, du point de vue des influences linguistiques, esthétiques, culturelles, idéologiques. Donc jamais il y a une œuvre qui est nouvelle par rapport à son passé, par rapport aux autres œuvres. Dans les années 60, Kristeva, notre critique, appellera cet dialogisme intertextualité, en faisant les liens dans différents textes, pour arriver après à Genette qui parlait de la transtextualité. Il prend l'esempio du palinsesto. Avant l'invention de la presse, avant l'invention de Gutenberg, on avait les palinsesto, ça veut dire qu'il y avait un morceau de cuir ou un tableau recouvert de cire, et les manuscrits, quand il était écrit là, il venait, si un manuscrit devenait quelque chose de dépassé, le manuscrit venait effacé et il venait réécrit un autre manuscrit sur le même palinceste, sur le même support. Donc ça, selon Genette, c'est la conception du texte. Un texte à la base, il a d'autres textes qui sont antérieurs à lui, il a des textes qui sont contemporains à lui et il a des textes qui seront postérieurs à lui. Après, il fait toute une distinzione tra architecte, qui c'est la comparaison des textes du même genre. La paratextualité, c'est les choses périphériques au texte même, au livre. Donc la préface, la postface, l'épigraphe, les titres des chapitres. Après, on a la métatextualité, qui sont les commentaires sur le texte. Donc on va dire che tutta la critica letteraria è la metatextualità. E après on a l'intertestualità, che è proprement dit, che costituisce des allusions e des situations avec d'autres textes. Le situations sont les références directes, les allusions sont des références indirettes. On ne cite pas directement l'auteur, mais on s'approche à lui avec des concepts qui le letteur pense connaître est censé connaître sur l'auteur. Donc on parle d'hypotexte, qui c'est le texte de départ, et de hypertexte, qui est le texte qui s'est aspiré du texte de départ. Par exemple, l'Iliade et l'Odyssée sont les hypotextes par excellence, qui dans les millénaires ils ont aspiré beaucoup d'autres textes, à partir de la Divine Comédie, la Divina Commedia, où Ulysse il est à l'enfer pour avoir défié les limites de la connaissance, ou pour arriver aussi à l'Ulysse de Joyce, où il y a un flux de conscience, où il fait ses voyages imaginaires dans lui-même, voyage qu'a fait Ulysse d'Homère autour de la Méditerranée. Donc, là, j'arrête les secondes et je vous fais écouter une chanson qui s'appelle pas A que je t'aime, mais qui s'appelle A que la vie est belle. Et naturellement, c'est ironique, non, Yamine?
Oui, oui, et c'est une chanson de Brigitte Fontaine et qui marquait son tournant électro dans sa façon de faire de la musique. Donc, c'est un titre assez perché, mais de toute façon, tout l'univers de Brigitte Fontaine est assez perché et c'est ça qui la rend magnifique, moi, je trouve.
Vas-y, Amina, super.
Saurais-tu donner mon âme si méchante?
voilà, avec ce mot mélancolique en même temps âpre, on passe à un autre, la dernière vision della critica letteraria, che è una visione che si sviluppa dalle anni 60-70, e è qualcosa che si basa non più sull'auteur, come on a vu, non più sulle contesti storici o sull'inconscient dell'auteur o della collettività, non più sulle texte in lui-même, come on a vu avec le strutturalisme, ma piuttosto sulle lecteur. On parle de la théorie de la réception. En Allemagne et en Suisse, on a l'école de Constance. Constance, c'est un lac. Et Yaous sera la première critique à parler de l'œuvre littéraire, et en disant que l'œuvre littéraire connaît sa vraie existence quand elle est reçue par les lecteurs. A 66, Yaous écrit pour une existence, pour une esthétique de la réception, qui est rien d'autre que le rapport entre l'œuvre et le public. Selon lui, il n'y a pas de lecteurs standard, mais il y a une pluralité de publics. Donc, il faut étudier la situation générale de la réception de l'œuvre, et chose qui définit l'horizon d'attente. C'est un concept simple. L'horizon d'attente, c'est l'habitus. Habitus, ça veut dire en latin habitude littéraire, dans ce cas. Donc, d'un groupe, c'est l'habitude littéraire d'un groupe à un moment précis et dans un contexte précis. Par exemple, on peut considérer un lecteur italien, un ingénieur italien de la Vénétie des années 50. Il a un habitus différent par rapport à un fille sarde de 25 ans des années 90. Il a un habitus différent par rapport à un espagnol des années 50 où il y avait la censure franquiste. Et il a un habitus même différent par rapport au à un français des années 50 où il y a Sartre, il y a la nouvelle théorie qui revient. Qui revient à la. Qui sort à la surface, voilà. Donc, on a vu que l'horizon d'attente change, et change selon les pays, les groupes sociaux, etc. Et comment on fait à établir un horizon d'attente? On le fait grâce aux études typiquement modernes. Sur les maisons d'édition, sur les données qu'on reçoit par les ventes, sur les études sur les librairies. Donc on peut cerner le type de public pour un certain livre, pour un certain auteur. L'horizon correspond, comme on a dit, aux habitudes de lecture, mais correspond aussi, par exemple, les genres, les romans, les polars, les romans historiques. Et chaque genre est relié plutôt à un type de public, la bande dessinée, etc. Après, on a aussi la formation du lecteur, si le lecteur a une formation classique, scientifique, s'il n'est pas quelqu'un de très cultivé. Donc, on voit comme l'horizon littéraire change selon les époques et change selon aussi les groupes sociaux. Et à propos de ça, on va parler des œuvres. À propos de ça, il y a toujours Yaous qui définit cette théorie du changement de l'horizon littéraire. Ed è une dimostration, comment dire, tangible, une dimostration concrète de ce changement de l'horizon littéraire. Sont les œuvres qui sont considérées avant-gardistes. Parce que une œuvre avant-gardiste, parce que le public de son temps, il n'est pas prêt pour la recevoir. Donc, par exemple, le public français du 19e siècle lisait plus de poésie que de romans. Mais Baudelaire introduit dans la poésie, avec Les Fleurs du Mal, des thématiques qui sont retenues scandaleuses parce qu'elles ne sont pas des thématiques qui concernent la poésie à l'époque. Donc il commence à parler du vice, de l'amour lesbien, du vin, de l'alcool, de l'opium, de la chiche. Donc ce scandale il a causé un procès à Baudelaire en 19e siècle, mais donc l'horizon d'attente d'où l'éther n'était pas prêt à l'époque, mais aujourd'hui Baudelaire a étudié dans les lycées, Baudelaire fait partie de la littérature française, donc on assiste à un changement de l'horizon d'attente. Sans aller trop loin, pour rester dans le 20e siècle, il y a eu un œuvre italien qui est le Guépard, le Gattopardo. Quand elle était sortie, elle a reçu des critiques impitoyables, dans le sens que c'était une œuvre retenue totalement anachronistique, parce qu'elle parlait d'une famille sicilienne dans la période des Bourbons, donc le royaume de Sicile. Nous, on était dans l'état italien naissant après la Seconde Guerre mondiale, l'état post-fasciste qui s'empruntait sur des valeurs démocratiques, donc cette esaltation dell'aristocrazia si semblait totalement anachronistique. E par contre ce livre il a reçu des centaines et centaines de traductions, et aujourd'hui est le livre avec Le nom de la rose de Umberto Eco le plus traduit, le plus connu à l'étranger, le livre italien le plus connu à l'étranger du 20e siècle. Donc on voit comme l'horizon d'attente a changé dans ce cas aussi. Il est venu un livre culte grâce sûrement aussi au magnifique film de Luchino Visconti avec Claudia Cardinale e Alain Delon. E donc ce changement d'horizon d'attente dans lequel on a parlé è aumentant les besoins, oui, l'œuvre est produite par les lettres, mais aussi l'avant-garde, on ne doit pas oublier l'avant-garde qui change les lettres même. Donc on a vu qui, comme je vous disais, on était centré sur l'auteur avant, avec le vieilles entre guillemets théorie des critiques littéraires, on était centré sur l'auteur, sur le contexte social, l'auteur du point de vue de l'inconscient, les textes en tant que texte en lui-même, donc l'amour de l'auteur. Maintenant on est sur le lettère et on reprend un peu aussi ce concept de l'amour de l'auteur élaboré par le structuraliste et par Barthes, parce che maintenant c'est plus l'amour de l'auteur à avantage du texte, c'est plutôt l'amour de l'auteur a avantage du lecteur, parce que c'est le lecteur qui interprète. Donc je vous laisse, mais ça vaut très bien et pour la critique littéraire et pour une émission radio, parce que moi le structuraliste aurait dit n'écoutez pas, ne pensez pas à Simone, pensez plutôt à ce qu'il dit, au texte, à ce qui vous écoutez. Maintenant je vous dis ne pensez même pas au texte, pensez qu'à vous et à votre interprétation. Donc, je meurs dans vous. Je suis où, disais ça, mais c'est loin dans mon cas. Je vous laisse écouter, parce que c'est ça qu'il faut faire. Il faut lire et écouter. Il faut lire et écouter. Oublions-nous de l'auteur, oublions-nous du texte. À vous l'interprétation. Je vous laisse écouter The Smith. Amine, tu peux nous parler, c'est un peu culte ces chansons, tu disais, non?
Ouais, c'est une chanson très connue de ce groupe anglais, du coup, les Smiths, et c'est assez dépressif, mais moi j'aime bien.
Allez, vive la dépression!
Of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. I was looking for a job and then I found a job, and heaven knows I'm miserable now. In my life, why do I give valuable time to people who don't care if I
Voilà, c'est intéressant de voir comme il change les références culturelles et musicales. Par exemple, entre moi et Yamin, on a 15 ans d'écart, on vient de des pays différents, moi je suis italien, lui il est français. Mais on voit comment, par exemple, pour moi, j'ai 41 ans, quelque chose de culte un peu dépressif serait le Joy Division. Pour Amine, peut-être, dans ces changements de contexte, il se réfère toujours aux années 80, avec un groupe, les Smiths, qui je ne connaissais même pas. Donc c'est vraiment un changement culturel, d'horizon, d'attente, comme on va dire. Entre une génération et l'autre, entre un pays et l'autre, entre différents facteurs. En 1972, un'altra critique, Ether, il écrit l'acte de lettura. E elabora la teoria di lettera amplifite. Le lettere amplifite, ça veut dire che quand l'auteur conçoit l'œuvre, il pense déjà à son lettere amplifite. S'il ne fait pas ce procès-là, ça veut dire qu'il ne veut pas être publié. Par exemple, c'est le cas de Kafka. Quand il était en train de mourir, il a dit brûlez tous mes œuvres. Heureusement, ils ne l'ont pas brûlé. Et on a le grand. Kafka, Franz Kafka, qui nous a laissé son œuvre littéraire. Donc, le concept de lettera amplifite fait naître l'idée pour laquelle lire est un acte d'interprétation. Comme je vous disais, ne m'écoutez pas, n'écoutez pas les textes, les contextes, interprétez. Il y a des milliers d'interprètes, c'est les milliers d'écouteurs de cette émission, par exemple. Donc, la première critique d'un texte littéraire est l'électeur, l'écouteur, si on parle de radio. L'électeur a un rôle actif dans la production critique e l'acte de lecture devient la concrétisation du test. S'il n'y a pas l'acte de lecture, s'il n'y a pas l'acte de l'écoute, vous ne pouvez pas concrétiser le texte. Le texte n'a pas raison d'exister. Ce n'est pas le texte de. Du structuralisme che esiste in lui-même. S'il n'y a pas votre interprétation du texte, il n'y a pas le texte en lui-même. Et c'est avec ce concept qu'en 1979, le grand Umberto Eco écrit un livre de critique qui s'appelle Lector in Fabula. Fabula, c'est du latin, lector, c'est letter. Fabula, c'est du latin, fabula, ça ne veut pas dire la fable della Fontaine. Fabula, ça veut dire la trame d'une histoire. Donc, Eco, il est un grand personnage, il est spécialiste en philosophie médiévale, il invente la sémiotique, che è l'étude des signes, donc tutto un discours à Bologna. Dalle années 70 il écrit sull'interpretazione du texte. L'interpretazione du texte, selon lui, è infinie. E le texte littéraires è costamment interprété. C'est un peu comme dans la mort de Lothair, che je vous ai dit. Umberto Eco, attendez des secondes, je me suis un peu perdu dans mon discours. Il écrit un roman qui est fondamental et qui est l'autre roman de la littérature italienne du XXe siècle qui est traduit dans toutes les langues du monde. Ce roman, c'est Dans le nom de la rose. Le texte, on va dire, c'est pas un texte simple, je dirais que c'est un texte plutôt complexe, mais il connaît un succès énorme. Il est publié dans toutes les langues, il embrasse, il prend tous les types de publics, un public cultivé qui peut cueillir toutes les références à la philosophie médiévale, à la sémiotique, toutes les références cultivées, mais aussi un public moins cultivé qui cueillit la beauté de l'histoire, l'intrigue, la trame, parce que il a fait un livre total, une œuvre totale. Pourquoi total? Parce que total du point de vue de la réception, il prend tous les publics grâce au fait qu'un livre aumentant un roman historique et aumentant un traité de philosophie médiévale et aumentant un roman, un polar bien sûr, parce que c'est un polar à la base, donc il a capturé un public énorme. Eco va au-delà du lettère implicite d'Iser e il parle del lettère modèle. Le lettère modèle, c'est un lettère qui n'existe pas. Donc, avant, je disais, j'existe pas, mon texte n'existe pas, c'est vous qui existez. Maintenant, je dis, même l'écouteur, le lettère n'existe pas. Il existe aumentant un lettère modèle qui est un lettère qui n'existe pas, mais aumentant regroupe tous les types de lettères. Quand on lit, on fait un acte d'interprétation. On doit avoir les compétences pour pouvoir interpréter. Donc, qui a plus de compétences, interprète le plus. Les lettères, c'est coopérant dans ce cas à l'auteur, à l'écrivain, à ceux qui disent des conneries à la radio. L'idée de l'éther coopérant permet à l'auteur de percevoir et créer son texte. Donc c'est l'éther qui finit le travail de l'auteur, c'est l'éther qui est le but ultime de l'œuvre. La dernière étape de la création de l'auteur, on a besoin d'un éther pour pouvoir interpréter une œuvre. Donc c'est dans ce sens-là que le lettere rentre dans la fabula, dans la trame de l'histoire, comme Guglielmo del Baskerville, l'investigateur, le moine investigateur de Le Nom de la Rose. Le lettere, il rentre, il y a deux protagonistes, le protagoniste du livre qui segue Guglielmo del Baskerville e le lettere qui è l'altro protagonista, ma il n'a infini, perché il y a un'infinità di lettere, donc infini protagonisti. Donc voilà, qu'est-ce que dire? Il y a un risque dans tout ça. Le risque che le fait de concevoir une littérature de réception, il a créé le risque qui maintenant l'écriture n'est plus une chose créative, mais souvent devient quelque chose qui est conçu que pour le public. C'est comme ça qu'ils sont nés les feuilletons, les feuilletons, c'était des histoires qui s'enchaînaient et sortaient avec périodiquement dans les journaux, parce que la presse voulait vendre, donc elle voulait que quelqu'un écrivait pour son public, pour un public, on va dire, un peu démentiel, parce que ça s'agissait des histoires sentimentales, pas plus que ça. Mais, par exemple, c'est pas que ça, par exemple, dans le 19e siècle, les grands écrivains, par exemple, je pense à Dostoevsky. Dostoevsky, les livres, il apparaissait dans la presse, donc Delitto e Castigo, il est sorti dans la presse, après il est devenu un livre. C'était un livre à différents, comment dire, à différents, qui sortait dans différents puntate, comment dire, a differentes serie, a differentes reprises. En plus, dans le 19e siècle, les écrivains ils étaient payés par nombre de mots qu'ils publiaient. Donc, on voit comme on avait ce goût dans le 19e siècle pour la description, pour élargir les mots. Donc, un livre conçu par le public. À l'intérieur de cette littérature commerciale, n'est-ce aussi des grands chefs-d'œuvre comme Crime et Châtiment de Dostoevsky, par esempio. Dans cette vision du public, il naissent, par esempio, la littérature pour la jeunesse, il naissent les mangas, il naissent la littérature de gare. La littérature de gare, c'est souvent un polar che on achète en gare avant de prendre le train et on les lit le temps du voyage. Donc, aujourd'hui, on peut dire que le lecteur est devenu un peu encombrant. Le lecteur n'était pas du tout considéré et aujourd'hui il a pris une place trop, qui excède un peu sa place aussi. On a bien sûr l'amour de l'auteur, l'amour du texte, l'amour du contexte, ma le lecteur è devenu trop encombrant. C'est pour ça qu'on produit ce qu'on appelle la littérature entre guillemets de série B, la littérature. C'est pour ça qu'on a comment s'appelle toutes ces choses style Netflix etc qui font des produits pour vendre des produits commerciaux. Donc la littérature commerciale naît en fonction des ventes des goûts du public. C'est pour ça que c'est aussi indispensable qu'un auteur qui pour être un auteur de qualité, pour pouvoir noter être de qualité, il doit être un auteur avant-gardiste qui anticipe le temps. Il doit aller au-delà de son public, il doit décaler l'horizon d'attente. Dans des mots, il doit être un auteur indépendant. Avec tous ces discours qu'on a fait sur les auteurs, sur les lecteurs, sur les tests, sur la critique littéraire en générale, e en appuyant les avant-gardistes, ceux qui ont pas peur de dire leur pensée qui est un peu en contraste avec le temps qu'il vit, je vous laisse dans le vide de tous ces mots éparpillés au vent et je vous fais écouter une belle chanson choisie par Yamina, mais que je connais cette fois. C'est une belle chanson qui s'appelle Ville vide, città vuota de Mina. On écoute.
Le strade piene, la folla intorno a me mi parla e ride. E nulla sa di te. Io vedo intorno a me chi passa e va, ma so che la città vuota mi sembrerà se non torni tu. C'è chi ogni sera mi vuole accanto a sé, ma non mi importa se i suoi baci mi darà. Io penso sempre a te, soltanto a te, so che la città vuota mi sembrerà se non torni tu. Come puoi tu vivere
le strade vuote, deserte senza te. Leggo il tuo nome ovunque intorno a me. Torna da me, amore, non sarà più vuota la città, e io vivrò con te tutti i miei giorni, tutti i miei giorni.
Voilà Yamin, tu veux nous dire des mots sur ces chansons?
Je ne sais pas quoi dire de plus, à part que c'est une très belle chanson et qui me ramène dans une Italie que je fantasme, entre guillemets, peut-être, de celle du cinéma, peut-être. Et voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette chanson, en tout cas.
Beh, merci pour cet commentaire, mais la chanson di Angrol, di Les Routes, sont pleines de gens... mais je les vide autour de moi parce que je pense à toi. Et les routes, après elle reprend, les routes sont désertiques autour de moi, mais je les vide autour de moi parce que je pense à toi. Voilà, avec ce concept de vide et cette...
C'est encore une chanson triste du coup.
Voilà, encore une chanson triste, mais avec, si je ne sais pas si tu as noté, il y a une musique de fond qui est pas triste, plutôt mélancolique.
Oui.
Ça c'est un peu une caractéristique italienne, nous on dit des choses tristes avec un certain détachement et avec une certaine allégresse, tu vois. Donc voilà, en gros la vie est difficile, mais il faut continuer, il faut avoir un détachement et une certaine
distance
et sourire, il faut savoir sourire même sur les choses tristes. Donc je te remercie beaucoup Yamin pour ce choix musical très belle, et je vous dis à tout le monde, je vous dis, si vous avez envie, restez avec nous à Delandi avec Nino domani à Palermo, et voilà, merci et au revoir, ciao à tutti.
Io sono il fortunato ragazzone, recente acquisto dell'umanità. Ho una superba faccia da frescone, esuberante imbecillità. Sportivo a tempo perso, un po' monello, con la pipetta in bocca me ne vo. Matteggio a prepotente, a picchiatello, col saputello, eppure nulla so. Io sono il piccolo Marcello, baffutello e sbarbatello, sfrontatello e spacciatello.
Marcello,
sono più leggero di un fuscello, più prezioso di un gioiello, più innocente di un porcello.
Marcello,
Marcello di qua, Marcello di là, Marcello di su, Marcello di giù. È strano, lo so, ma un fascino, no, ce l'ho, ce l'ho, ma chi che bingringhina che ce l'ho.
Marcello,
son fatuo come un venticello, lieto come uno stornello, fesso come un somarello.
Marcello,
col microscopico cervello, più piccino di un pisello, penso solo che sono bello. Sono il bello di mamma, ormai con la bellezza solamente si può germire la celebrità. Sono molto noto infatti dalla gente che come me non tiene a che pensare. Io so cantare come Raffaiati e vesto con quel certo non so che. Ho gusti delicati e raffinati, vorrebbe ognuno somigliare a me.
Marcello,
tutti mi chiedono il modello della giacca, del cappello, del colletto e dell'ombrello.
Marcello,
mi copiano tutti questo quello, dalla scarpa di vitello al mio passo di cammiello.
Marcello
di qua, Marcello di là, Marcello di su, Marcello di giù, non vedo che me, non so neanche me. Marce, Marce, ma Marce, beh, che c'è?
Marcello,
se a mezza voce canterello qualche sciocco ritorniello, canton tutti solo quello.
Marcello,
Marcello, ma soldato questo quello, ma sta a casa ogni ora Marcello.
E perché?
Perché son bello, sono il bello di mamma.
Radio Galère 88.4. radio queer et féministe basée à Marseille, par et pour des personnes transfemmes, pour se faire du bien, partager nos questionnements, nos doutes, ce qui nous passionne et donner de la visibilité à nos vies. Avec des invités, des chroniques, la musique live, des reportages, des montagnes russes émotionnelles, des témoignages, un agenda, un rendez-vous mensuel, le 4e lundi du mois, sur Radio Galère.
Un exemple marécousiki, Marécousiki, on a été victime.
Des prisonniers sont ouvriers, chômeurs ou sans logis.
Underground sex, play.